C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, hier, le ministre Jean Boulet a annoncé le programme pour accélérer le tempo de la formation de la main-d'œuvre dans des endroits spécifiques, des programmes spécifiques, avec des primes pour attirer beaucoup de travailleurs pour améliorer leur formation dans des emplois où on manque de main-d'œuvre au Québec. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Luc?
Ah, moi, parle-moi de ça, un vrai programme. C'est comme Boris Vian. Moi, j'aime les programmes qui font boum! Lui, c'est quelque chose, ça. Ah ouais, patard, le programme. Toi, c'est pas un 100$ de crédit d'impôt à Noël, là. Non, non, c'est 3,5 milliards. Il y a deux parties au programme. Première partie, puis il faut pas les mélanger, parce que j'ai entendu beaucoup de chroniqueurs les mélanger. Première partie, les jeunes qui sont à l'étude vont recevoir des bourses, 1500 ou 2500$. Et la deuxième partie, c'est 475$ par semaine pour des gens qui ne sont pas à l'étude. Donc, en raccrochage, on va tenter d'aller chercher des gens qui ne sont plus à l'emploi, qui ont lâché les études, qui sont peut-être dans un emploi, sont peut-être à l'aide sociale, on ne sait pas où ils sont, mais en tout cas, on va essayer de les raccrocher. Et on y va fort, là, 475$. Évidemment, on a entendu Pierre-Yves McSween dire, attention, il va y avoir de la rescrit, c'est clair. Dans un programme de cette générosité-là, c'est clair, il y a toujours de la rescrit, on l'a vu avec le PCU. Est-ce qu'il va y avoir une obligation de résultat? Est-ce qu'il va y avoir une obligation de maintien dans le programme d'études, puis après, est-ce qu'il va y avoir une obligation de travail dans le domaine dans lequel?
Le travail, je te dis tout de suite, non, j'ai parlé avec le ministre tantôt. Faut que tu ailles au bout du diplôme. Ils vont te payer par session, ils vont te payer quand tu auras le diplôme.
Pour les étudiants.
Oui, mais t'auras, puis même pour la formation, okay. Mais t'auras pas l'obligation. Par exemple, tu t'en vas étudier en travail social, ben, t'es pas obligé d'aller à DPJ, là.
Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, ça, c'est une faiblesse.
L'État ne va pas te suivre. C'est ce que le ministre m'a dit.
En même temps, on sait que, bon, en tout cas, Pierre-Yves en a beaucoup parlé, j'insisterai pas. Mais, je voulais insister sur autre chose, par exemple. Est-ce que vraiment on a le bassin de personnes pour faire ce raccrochage social-là, scolaire et social? Tu sais, les gens pensent, oui, il y a plein de gens qui travaillent pas, il y a plein de gens, bon, essayons de clarifier ça un peu. D'abord, l'aide sociale. Les gens qui sont à l'aide sociale, là, oubliez ça, là. À l'aide sociale, 295 000 personnes sur l'aide sociale, il y en a 70 000 qui sont aptes à l'emploi. L'âge moyen, c'est 47 ans. Il y en a une sur 14 qui a 25 ans et moins, là. Et dans l'aide sociale, en règle générale, ceux qui sont aptes à l'emploi et ceux qui ne le sont pas, il y a un taux d'analphabétisme qui est très, très, très élevé, là. Plus de 70 %. Alors, ces personnes-là sont pas là pour rien sur l'aide sociale. Là. C'est pas parce qu'on va leur proposer de réétudier que la majorité va pouvoir... Il y en a quelques-uns, mais c'est pas de là que va venir le gros bassin. Donc, le bassin va venir de gens qui travaillent déjà, mais qui vont être en réorientation de poste. Et ça, c'est très bien aussi. Il y a des gens qui ont pas utilisé leur plein potentiel. J'en connais, j'en ai vu dans les programmes de formation sur le plateau Mont-Royal, des gens qui étaient passaient par Resto Plateau pour se raccrocher dans des métiers de cuisinier. Ils étaient très, très mal payés avec des heures interrompues. Et là, ces gens-là, on va leur proposer 475$ par semaine. Ils vont bondir là-dessus. C'est super. Ça va aussi créer un problème de main-d'œuvre dans certains postes. Tu sais, il y a des postes, notamment chez les emplois d'été des étudiants. On peut penser que quand tu as 1500$, tu n'iras pas chercher un emploi d'été. Parce que de toute manière, si tu vas chercher un emploi d'été, ça se peut que ça fasse augmenter tes impôts aussi. Alors, ça se peut très bien que tu décides que non, tu n'iras pas. Et ça va créer un problème de main-d'œuvre.
Ouais. Ben, on y va fort certain, hein. Lorsque j'ai entendu le ministre, je me suis dit, au grand mot, les grands moyens, on sort le gros chéquier. La crise qu'on vit est sans précédent. Les efforts qui ont été confirmés sont également sans précédent. Luc, tu parlais de 3,9 milliards d'investissements. Ça, c'est du 3,9 milliards, il y a 2,9 milliards en crédit additionnel. C'est vraiment énorme comme effort. Puis fait à noter, vous aurez remarqué la présence du premier ministre François Legault à la conférence de presse. Lorsque le premier ministre prend part à une conférence de presse, c'est généralement le message qu'on envoie, que le gouvernement veut envoyer, c'est que la préoccupation provient du plus haut sommet, là, du sommet de la pyramide, comme on dit là. Alors, ça témoigne à quel point le premier ministre est attaché à cet enjeu de la pénurie de travailleurs. Le programme, on parlait de la générosité du programme, là, si tu t'inscris à l'université pour 4 ans, là, tu peux avoir jusqu'à 20 000 $ là, de primes, de bourses du gouvernement. Pour le bac, c'est 15 000, au collégial, c'est 9 000 $ Mais quand on a dit tout ça, il faudra aussi être très patient parce que les 170 000 travailleurs que souhaite requalifier le gouvernement, Il se dit, on se donne une échéancier de 5 ans pour y arriver, mais on sait très bien que la pénurie de travailleurs à laquelle on est confronté, ou la rareté, comme le dit le ministre des Finances, Éric Girard, ben, elle va toucher le Québec au cours des 10 prochaines années. Selon moi, tout ça, c'est bien. Il y a certains oublis dans cette annonce d'hier. La première, c'est la reconnaissance des diplômes pour les personnes immigrantes. On se prive malheureusement de ressources extraordinaires dans notre société et je trouve toujours scandaleux de voir des immigrants formés se voir refuser les portes de nos universités, entre autres.
Je vais te faire grimper, Nathalie.
Un peu plus dans les rideaux?
Ouais. Oui, parce qu'il y a un propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Cadraplast, je pense, 70 employés, là, il m'a écrit après l'entrevue avec le ministre Boulay. Ouais. Il y a 6 personnes qualifiées en attente en immigration depuis 6 mois.
Ben voilà.
Pas de nouvelles, pas de suivi. Et ce que je vis, c'est exactement parce qu'il fait partie là, de ce qu'on appelle les tables d'industrie, là, avec d'autres entrepreneurs. Tout le monde vit la même affaire. Fait que t'as beau l'annoncer des programmes, c'est très bien pour dans 3 ans, 2 ou 3 ans, mais actuellement, là, il y a un paquet de gens qui attendent pour venir travailler ici.
Ben comment il s'appelle?
Quadraplast.
Puis le président, il s'appelle comment?
Monsieur Tassé.
Monsieur Tassé, un petit message pour vous. La prochaine fois que vous entendez un nono dire qu'il faut couper dans le gras dans le gouvernement, parce que il y a trop de bureaucratie, puis il y a trop de personnes qui sont travaillées à rien faire, là, interpellez cette personne-là, puis dites-lui, non, c'est pas parce que tu la vois pas, cette personne-là, travailler au front, infirmière ou médecin, qu'on en a pas besoin. Des agents d'immigration, ouais. Des agents de qualification, qui donnent, comment on appelle ça quand tu veux faire une adéquation entre un diplôme qui a été à l'étranger puis un diplôme ici. Tout ça, on en a besoin.
La reconnaissance
besoin.
Des équivalents. Non,
oui, les équivalences. On en a besoin.
Ouais. Mais il y a cet enjeu-là, la reconnaissance des équivalents, mais il y a la réalité à laquelle, Paul, tu réfères, c'est-à-dire le programme d'emploi pour les emplois temporaires, les employés étrangers, comme on appelle. Là, le problème vient du fédéral. Il semblerait là que, sur le plan administratif, les délais sont longs, c'est compliqué, il y a un backlog de dossiers. Ça n'a pas de maudit bon sens. On va se le dire, là, on est dans un contexte d'urgence. Il faut que la machine s'adapte à la réalité de ces pauvres employeurs qui disent « moi, je veux bien ». Parce que ce qui nous attend en bout de ligne, là, le Québec, là, on se pète les bretelles, 6 % de taux de croissance annoncé dans le mini-budget déposé la semaine passée. Ça va bien, notre économie va bien, le taux de chômage, écoute, c'est parfait. Ma crainte, c'est que la pénurie de travailleurs ou la rareté de travailleurs plombe à ce point notre capacité de créer de la richesse qu'on se retrouve dans une vague de fonds, d'une certaine façon, qu'on se retrouve face à l'incapacité pour des entreprises de mettre à contribution, de concrétiser leur projet d'investissement. Et si le jour où ça plombe la croissance économique du Québec, oubliez ça, l'effet domino va être très important. Là. Ça va se répercuter sur les impôts, sur les taxes. Puis vous allez voir que gérer la décroissance, c'est bien plus difficile qu'on le pense.
Mais moi, tu sais, Nathalie, ça fait longtemps que je dénonce cette stratégie de « dans le fond, mon Léon ». C'est effectivement, on en voit toutes les conséquences maintenant. J'aimerais ça revenir sur le programme parce que quand même, ça fait du bien de voir ça. T'as des mères monoparentales qui ont abandonné les études, qui avaient des mères monoparentales, j'en parle souvent, c'est 22% des ménages là, c'est énorme, tu sais. Donc qui ont abandonné les études, qui sont pas dans un travail qu'elles devraient faire, qu'elles pourraient faire mieux, s'épanouir, puis elles pourraient mieux servir la société, puis pourraient gagner plus d'argent. Ah ouais. Quand même, là, applaudissons ça là. On a la voix royale pour raccrocher beaucoup de monde. Tu sais que les femmes au Québec, là, c'est 10 % de plus de taux d'activité que dans les autres provinces grâce au programme de CPE, grâce au programme aussi, les ex-programmes de formation qui permettaient d'être sur l'aide sociale puis d'aller chercher un peu de revenus ou d'être payé pour faire de la formation. C'est une tradition québécoise, puis là, elle est poursuivie.
Je vais mettre un petit peu un cours à ton enthousiasme. Au moment où tu dis ça, Luc, puis j'adhère à ça, on apprend aujourd'hui que les femmes sont payées 10 % encore moins cher que les hommes. C'est-à-dire qu'on gagne 91 % du salaire des hommes encore aujourd'hui en 2021, malgré la loi sur l'équité salariale.
Tu sais que ça changera jamais.
Mais je veux revenir 3 secondes, moi, sur les travailleurs temporaires.
Madame la commissaire.
Non, ma conclusion, ce que je veux dire, c'est que ça coûte très cher pour les employeurs. Souvent, ils passent par les agences. C'est extrêmement coûteux. Et là, je me dis, si en plus le fédéral complique les affaires davantage, ben là, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, moi, j'invite le ministre Jean Boulay à mettre le pied sur la table, sortir la cuillère de bois, puis dire au fédéral, écoutez, ça va faire, là, il faut absolument qu'on appuie sur l'accélérateur, parce que pendant ce temps-là, il y a des gens extrêmement compétents, comme le propriétaire de Quadraplast qui dit, ben écoute, moi, je suis prêt là, à faire feu, mais oubliez ça, j'ai pas, pas la main d'œuvre. Puis j'attends.
Merci, on vous retrouve après la pause et un étrange sujet, une position du Conseil du statut de la femme sur les mères porteuses. Leur principe étant, tu dois avoir accouché au moins une fois avant de pouvoir porter l'enfant pour quelqu'un d'autre. Depuis hier, j'essaie de comprendre la logique. Mais...
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, projet de loi qui encadre la pratique des mères porteuses. Le Conseil du statut de la femme a déposé un mémoire. Et un des éléments, c'est de dire qu'une femme qui veut devenir mère porteuse doit au préalable avoir accouché au moins une fois. Là, j'essaie de comprendre. Nathalie, peux-tu nous éclairer?
Ah, ben j'essaie de comprendre aussi. C'est fourraide, cette recommandation-là du Conseil du statut de la femme. Une recommandation, je qualifierais à la fois d'infantilisante, rétrograde et paternaliste. Ce que le Conseil du statut de la femme propose au gouvernement, c'est d'établir des balises pour encadrer la pratique de ce qu'on appelle les mères porteuses ou la gestation pour autrui. Bon, qu'il y ait des balises, par exemple, que la femme doit avoir 21 ans et plus, tout ça, c'est correct. Mais là où j'ai complètement décroché, c'est précisément sur cette suggestion que la femme qui souhaite porter un enfant pour ce qu'on appelle des parents d'intention, pour autrui, doit au préalable avoir une expérience de grossesse. Parce que si elle a eu au préalable une expérience de grossesse, ben elle va être mieux préparée psychologiquement à faire face à tout ce qui pourra se présenter sur sa route. Hey, wow, les moteurs, là, c'est vraiment comme si le Conseil du statut de la femme venait dire à la femme en 2021, vous savez quoi? Vous ne pouvez pas disposer de votre propre corps. Nous, on va vous dire comment le faire. Et on pense que la façon de le faire, c'est que vous ayez connu au préalable une expérience de grossesse. Moi, j'ai été profondément choquée par ce genre de recommandation. On sent la bienveillance du Conseil du statut de la femme dans son mémoire de 42 pages parce que, Paul, il faut savoir que cette disposition, cette suggestion s'inscrit dans un enjeu plus large, c'est-à-dire qu'on veut réformer le droit de la famille au Québec. Et ce projet de loi qui a été déposé par le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, est un projet de loi extrêmement costaud, là, plus de 360 articles. C'est vraiment très lourd. Il y a des dispositions concernant l'encadrement des mères, de la pratique liée aux mères porteuses. Mais là-dessus, je décroche complètement et selon moi, le Conseil du statut de la femme va à l'encontre de son mandat, de sa mission, qui est celle de prendre fait et cause pour défendre les intérêts des femmes.
Ben moi, vous surprendrez pas, Nathalie, Paul, là, que j'ai pas l'intention de parler trop longtemps là-dessus. Je me spécialise pas dans l'utérus, là, puis dans le mon avis sur l'accouchement est comme limité, là. Mais j'ai eu, tu sais, j'ai un enfant, donc fréquenté la mère de cet enfant-là, des sœurs, des amis qui ont vécu des grossesses, ça se passe pas tout le temps bien, là. J'en ai proche de moi des personnes qui ont eu des grossesses très très difficiles. Elles ont été très surprises, puis les impacts de la grossesse ont été très importants aussi, là, sur le physique par la suite et puis le physique intime, là. Et donc j'imagine que tout ça s'explique à une mère porteuse, là. Peut-être que t'es pas obligé d'être passé par la grossesse pour comprendre ce que c'est qu'une grossesse, mais du moins faut que ça soit fait, là. Tout le monde n'accouche pas comme une chatte, là.
Et, exactement, tout à fait. Mais c'est correct qu'on veuille encadrer ce genre de pratique. Mais là, Luc, sais-tu quoi? Si je voulais pousser très loin là, la comparaison, vous allez me dire qu'elle est boiteuse. Mais je me suis dit, ben si on établissait une équivalence avec les hommes qui font don de leur sperme, par exemple, est-ce qu'on pourrait exiger de ces hommes qui font don de leur sperme d'avoir vécu la paternité? Non, avant de faire le don de sperme?
Je peux-tu dire que les gars qui font don de leur sperme, ils ont bien de la pratique sur le don de sperme? Là.
Je sais pas, moi, toi, c'est un domaine que je connais pas, mon cher Luc. Peut-être que tu peux nous éclairer là-dessus, toi, ce
non,
matin.
Non, mais tu peux regarder une couple de films.
Ben, on a tous vu Starbucks avec Patrick Huard. Non, mais... Oh, OK, je sais à quoi tu réfères. Oui, tout à fait. Très subtilement, je sais à quoi tu réfères.
Ouais, c'est pas quelque chose de très engageant, mettons.
Mais tu vois, c'est parce que... Et à part ça, il faut savoir que l'enjeu des mères porteuses, ça ne fait pas... Il n'y a pas d'unanimité au Québec. En fait, le Code civil interdit ce genre de pratique. Mais comme ça se produit... le Conseil du statut de la femme dit, ben pourquoi pas baliser la pratique liée à cette... qui est une pratique en passant, comment dire, à la marge. Là. Aux États-Unis, on affirme que 1% des grossesses sont liées à la pratique des mères porteuses.
Mais au moins, tu as vu l'intention, là, tu l'as mentionné, mais on va le rappeler quand même. Là, il y a une intention justement d'encadrer ce 1%-là. Alors, avec un contrat devant notaire, avec des conditions aussi de volonté de contact avec l'enfant ou pas après la naissance de l'enfant, une séance d'information sur les implications psychosociales. Parce que il y a des mères qui... lors de la grossesse, réalisent qu'elles ont déjà un lien avec l'enfant. Au moment de la grossesse, un lien auquel elles ne s'attendaient pas. Et bon, tout ça doit être expliqué, encadré. Puis je ne veux absolument pas aller contre ton indignation sur ça parce que je considère que je suis pas habilité pour le faire. Mais tout ça existe là. Et je peux juste dire que. Mettons que le Conseil de la statut de la femme peut-être n'a pas proposé le bon moyen, mais du moins a pris en considération des aspects importants.
Mais tu vois, parce que l'argument du Conseil du statut de la femme, et je vais citer là, page 8 de ce mémoire de 42 pages, « En ayant déjà vécu au moins un accouchement, les femmes sont alors plus conscientes, selon elles, de leurs réactions psychologiques, physiologiques et comportementales lors de cette période et peuvent y faire le cas échéant et s'y adapter avec une plus grande aisance. » Moi, je comprends, là, le motif est peut, comment dire, se défendre, mais moi, j'y vois derrière cet argument une espèce de forme de paternalisme où on prend pour acquis que les mères porteuses se servent de leur corps à des fins, comment dire, instrumentalisent leur corps. Alors que souvent, la réalité est tout autre.
Mais une mère porteuse, c'est pas nécessairement une inconnue. Là. Ça peut être la sœur, tu sais, des proches, une amie. C'est pas toujours déjà des liens qui existent. Là.
Mais tu vois, Paul, ce à quoi tu te réfères, c'est parce qu'il y a énormément de préjugés à l'endroit de cette pratique. On pense que souvent, c'est les femmes vont faire ça pour avoir de l'argent. Hein, pour faire un coup d'argent rapide. On pense souvent que les femmes sont très pauvres. Hein. On pense qu'il y a un couple qui a de l'argent qui va exploiter une femme plus pauvre. La réalité a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué et le portrait est beaucoup plus nuancé. Par exemple, je lisais que l'Inde et la Thaïlande, maintenant, ne permettent plus. Il y a des États qui permettaient à des parents étrangers de débarquer là, de payer une mère porteuse plusieurs milliers de dollars puis dire après ça, à la couche, on s'en va avec le bébé puis l'histoire est terminée. Maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, on a civilisé davantage la pratique. Mais moi, ce qui me choque, puis moi, je me dis pas féministe dans la vie, là. J'ai pas l'étiquette féministe écrite dans le front, là. D'ailleurs, je déteste les étiquettes dans la vie. Mais au-delà de, mais là-dessus, ça m'a fait réagir parce que on est en 2021. Une femme en 2021 devrait pouvoir disposer de son corps comme elle le veut. Plutôt que de se faire dicter une façon, une approche par le Conseil du statut de la femme sous prétexte qu'on est bienveillant avec les femmes. Au contraire, on fait le contraire de ce qu'on souhaite, de ce qu'on annonce, selon moi, avec cette condition que souhaite voir le Conseil de la femme, le statut de la femme adopté par le gouvernement. Je ne sais pas si le gouvernement, les parlementaires iront dans ce sens-là, mais moi, je trouve ça rétrograde. Je vais vous le dire, je trouve ça rétrograde. C'est comme si la femme n'était pas en mesure de prendre elle-même ses propres décisions.
Merci, on vous retrouve demain.
C'est 23.